du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Jean. Texte de la liturgie catholique pour le dimanche de Pentecôte. À l'heure où il va quitter ce monde pour aller vers le Père, Jésus dit à ses disciples :
Quand viendra le Paraclet que moi je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient d'auprès du Père, celui-là témoignera à mon sujet. Et vous, vous êtes témoins parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Il est avantageux pour vous que je parte. Si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Si je pars, je vous l'enverrai. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand il viendra, lui, l'inspirateur de la vérité, il vous fera cheminer dans la plénitude de la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il écoutera, et il vous interprétera ce qui est à venir. Lui, il me glorifiera, car il recevra de ce qui est à moi, et il vous l'interprétera. Tout ce que le Père a est mien, et c'est pourquoi j'ai dit qu'il recevra de ce qui est à moi, et qu'il vous l'interprétera.
Bonjour Georges.
Bonjour André.
Eh bien, ce matin, nous avons des confidences pleines de réconfort pour les disciples. Jésus explicite comment il va demeurer présent à ses amis par-delà son départ vers le Père. Comment comprendre toutes ces interventions du Paraclet? Quel est-il? Et que signifie ce nom?
Eh bien, ce texte s'inscrit dans le long monologue de Jésus que le récit de Jean situe à l'intérieur du dernier repas. Ce sont les adieux du Maître à ceux qu'il a guidés dans la connaissance du Père pendant des mois. Le chapitre 15 s'est ouvert par la parabole de la vigne, une parabole qui illustre l'intime communion de Jésus et de ses envoyés, ses apôtres. Cette communion est essentiellement enracinée dans la totale communication que Jésus leur fait de ce qu'il sait du Père.
Je vous appelle ami, car tout ce que j'ai écouté auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître.
Mais cette communication va-t-elle cesser en raison du départ du Maître? Eh bien, voilà ce à quoi notre texte veut répondre. Et pour illustrer la façon dont il va assurer sa présence après son départ, Jésus prend l'image du Paraclet. Ce mot, on le retrouve 4 fois dans les chapitres 14, 15 et 16.
Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre Paraclet qui restera avec vous pour toujours. Le Paraclet, l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Lorsque viendra le Paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Cependant, je vous ai dit la vérité. C'est votre avantage que je m'en aille. En effet, si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. Si, au contraire, je pars, je vous l'enverrai.
Eh bien, comment traduire ce mot « Paraclet » C'est un mot grec qui vient du verbe « appeler » et qui désigne celui qui est appelé pour venir à côté de quelqu'un. Alors, ce peut être un assistant qui va venir vous aider ou un avocat qui va venir parler en votre faveur ou un interprète qui se place à côté de vous pour traduire votre pensée. Dans ces passages de Jean, il semble bien que Jésus parle de l'Esprit comme du Paraclet que l'on trouvait dans les synagogues juives et qui avait pour rôle d'interpréter la parole de Dieu. Il faut en effet se souvenir qu'à l'époque, l'enseignement se faisait uniquement oralement. En effet, les livres sont très rares et les livres rouleaux qui se trouvent à la synagogue, à la maison de prière des Juifs, ces livres ont simplement les consonnes qui sont écrites. Les voyelles ne sont pas là. Alors pour lire des passages de la Torah ou des prophètes, il faut savoir par cœur ce que le livre dit afin de pouvoir mettre les bonnes voyelles entre les consonnes. Ce n'est en effet que beaucoup plus tard qu'on ajoutera les voyelles et qu'on sera obligé de les placer en dessous des lignes puisqu'il n'y a pas de place entre les consonnes. On se transmet ce savoir sur les Écritures saintes de génération en génération. Aujourd'hui, en effet, l'instruction se communique surtout par les livres ou par les ordinateurs maintenant. Au temps de Jésus, c'est par l'écoute d'un maître qu'on apprend et il faut mémoriser ce qu'il dit oralement. Pour se donner une petite idée de cela, pensons à la façon dont nous avons aujourd'hui la transmission des chansons. Peu de gens lisent les paroles de ces chansons. Et cependant, on les connaît parce qu'on les écoute et surtout parce qu'on les chante. En effet, la musique nous aide à retenir les paroles. D'autre part, comme les livres saints sont écrits en hébreu et que peu de monde, au temps de Jésus, connaît cette langue puisque l'on parle l'araméen, on a besoin d'avoir à la synagogue un traducteur, un interprète qui fait passer le texte de l'hébreu à l'araméen. Un paraclet. En effet, en araméen, cet interprète se nomme le meturgémon, mais sous l'influence de la langue grecque, on le nomme aussi paraclita. Et il est intéressant de voir que dans nos écrits évangéliques, le mot est passé sans qu'on le traduise aussi bien en latin, puisque on le nomme le paraclitus, qu'en français, puisqu'on le nomme le paraclet.
Quels sont, au temps de Jésus, les lieux de transmission du savoir ?
Au temps de Jésus, plusieurs lieux se partagent l'apprentissage de la parole de Dieu. Le premier de ces lieux, c'est la maison familiale. Le père de famille a la tâche de transmettre la parole sacrée de la Bible. Il transmet ce que son propre père lui a enseigné. On est père, en effet, pas seulement parce qu'on a engendré physiquement, mais parce qu'on engendre au plan du savoir, au plan des connaissances. Le plus souvent, d'ailleurs, c'est le père qui apprend le métier à son fils. Dans la famille de Jésus, on est charpentier de père en fils. Mais surtout, le père transmet une sagesse de vie et la tradition que l'on a sur Dieu. Il faut toujours bien prendre conscience de cela. On ne peut pas alors apprendre par soi-même, au moyen de livres, de cassettes. Il faut donc avoir recours à quelqu'un qui transmet ce qu'il sait. Et il faudra garder nous-mêmes toutes ces connaissances dans notre mémoire, car on ne pourra pas consulter ensuite des notes écrites pour réviser ce qu'on a appris. On ne sait vraiment que ce qu'on a compris. Et il faut prendre le sens propre, étymologique de ce mot « comprendre », c'est-à-dire prendre avec soi, prendre en soi. Le père est donc le premier pédagogue, le transmetteur du savoir et de la sagesse. Oh, il devait y avoir un lien merveilleux qu'il y ait le fils à son père, et on comprend la force de cette communion entre père et fils par le dicton que Jésus va reprendre dans l'Évangile.
Personne ne connaît vraiment le père sinon son fils, et personne ne connaît le fils sinon son père.
Cette expérience d'apprentissage à l'écoute de Joseph aura sans doute été pour Jésus un symbole, le symbole d'un autre apprentissage, celui-là à l'écoute du Père des cieux. Lorsque nous entendons Jésus dire « ma nourriture est de faire la volonté du Père », il ne faut pas comprendre que Jésus est un simple exécutant des volontés divines. Le mot « obéissance » veut dire « écoute ». Obéir, c'est être à l'écoute. Cette obéissance de Jésus, c'est une manière d'aller à la source du savoir, en étant à l'écoute du Père divin, le Créateur de l'univers. Pour Jésus, le Père premier et même unique, et Dieu, tous les autres pères ne seront que des relais de cette unique paternité. Comme il nous le dit, n'appelez personne sur terre votre père, vous n'avez qu'un seul père, le Père céleste.
Si tel est le rôle du père, quel était le rôle de la mère dans cet apprentissage de la connaissance?
Eh bien, le jésuite Marcel Jouss voit ce rôle de la mère comme étant celui d'une répétitrice de ce qui a été transmis. Elle berce son enfant au son des paroles bibliques, comme nos mères nous berçaient en chantant les comptines du folklore, des chansons dont nous allons conserver dans la mémoire les paroles jusqu'à l'heure de notre mort. Alors que le jésuite François-Xavier se mourait en Chine, le jeune chinois qui l'assistait a surpris sur ses lèvres des paroles étranges. Eh bien, c'était le parler de son patois maternel. Est-ce pour ça que, sur la croix, l'évangile a gardé le cri de Jésus, poussé en araméen sa langue maternelle, « Eloi, Eloi, lama sabachthani ». La langue de notre enfance, nous l'appelons d'ailleurs notre langue maternelle. Et cela est symptomatique du rôle de la mère dans l'apprentissage du savoir. On sait aussi que dans la culture juive, la mère est celle qui aide l'enfant à s'approprier la Torah pour qu'il puisse en faire concrètement sa règle de vie, sa règle de conduite. La mère est donc comme une sorte de paraclet qui aide à mémoriser ce qu'on a appris, mais pour l'expliciter, l'interpréter et l'intérioriser.
Mais cet apprentissage de la Torah ne s'arrête pas à la vie familiale.
Non, quand l'enfant a grandi, c'est souvent le ministre de la synagogue qui va remplacer le père de famille pour compléter l'apprentissage de la Torah et des prophètes. Et ce maître qui va enseigner la Torah, qui est la grande règle de vie donnée par Dieu à Moïse, ce maître sera aussi considéré comme un père, comme le dit si bien un texte juif.
Qui fait apprendre les leçons de la Torah au fils de son prochain, celui est compté comme s'il l'avait engendré.
Chaque sabbat, la liturgie permettra de faire mémoire d'un passage de la Bible. On écoute le texte en hébreu, et aussitôt après, on écoute sa traduction, son interprétation en araméen. Au double sens du mot interpréter, traduire en une autre langue et donner le sens de ce qui est dit. L'interprétation est donc à la fois une traduction et une explication. Et celui qui fait ainsi l'interprète est appelé paraclet. Mais comme on l'a dit, il ne suffit pas d'écouter et d'apprendre, il faut comprendre. Alors évoquons comment Marcel Jousse décrit ce rôle du paraclet.
Là-bas, au rabbi, assis dans sa chaire professorale, improvise en hébreu et à voix basse son explication. Le paraclet, debout, se penche vers lui pour entendre chaque formule chuchotée à son oreille. Alors le paraclet répète à haute voix en araméen.
Eh bien, on a peut-être dans cette coutume l'explication d'une phrase de Jésus, ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les terrasses. À cette époque, on ne fait pas référence à ce qui est écrit dans un livre, on fait référence à ce que dit celui qui enseigne. La coutume juive pour le maître est de donner l'origine de son interprétation. Comme l'a dit Rabbi Untel, est une formule consacrée. Or, Jésus, lui, n'enseigne pas au nom d'un autre rabbi. Il enseigne directement au nom de son Père qui est Dieu. Il les enseigne en homme qui a autorité et non pas comme leur scribe, nous dit l'Évangile. Jésus se présente comme le porte-parole du Père, son paraclet.
Je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que j'ai à dire et à déclarer. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Cette parole que vous entendez, elle n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Il est avantageux pour vous que je parte. Si je ne pars pas, le paraclet ne viendra pas vers vous.
Lorsque vient l'heure de son départ, Jésus promet à ses disciples un autre maître, un autre paraclet. Ce sera l'inspirateur divin, l'esprit de vérité, qui va être pour les apôtres l'interprète de la volonté du Père. Le travail fait par Jésus auprès d'eux, c'est le paraclet qui va l'achever. Mon Père l'enverra pour qu'il parle en mon nom. L'Esprit, l'inspirateur, est donc lui aussi un envoyé. Et dans ce milieu de tradition orale, en effet, quand on a un message à transmettre, on n'envoie pas une lettre, un écrit ou une missive, on dépêche un envoyé. Le porte-parole ainsi ne sera pas une lettre morte, mais un répétiteur vivant. Le paraclet sera la mémoire vivante de Jésus, celui qui va interpréter son message, pour que ce message ne se fige pas, ne devienne pas sans vie. L'esprit de paraclet viendra redire l'évangile et il nous donnera la force d'en vivre pour que nous puissions, par lui, devenir fils et filles du Père.
J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. L'inspirateur de la vérité ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il écoutera et il vous interprétera ce qui est à venir.
Alors comment comprendre ces phrases ? Faut-il imaginer que Jésus pense ici aux dogmes qui expliciteront son message au cours des siècles ? Mais peut-être faut-il chercher moins loin et regarder d'autres phrases de Jésus qui peuvent expliciter sa pensée. Lorsque Jésus, par exemple, lave les pieds de Pierre et que Pierre veut refuser, Jésus lui dit « Ce que je fais, tu ne peux pas le savoir à présent, mais par la suite, tu comprendras. » À présent, à cette heure, Pierre ne peut pas comprendre le sens de la mort de Jésus.
Un peu plus tard, Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répond « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » « Seigneur, lui répond Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre tout de suite ? Je me dessaisirai de ma vie pour toi. » Jésus répond « Te dessaisir de ta vie pour moi ? Amen, je te le dis, trois fois tu m'auras renié avant qu'un coq ne se mette à chanter. »
Il faudra en effet attendre le matin de Pâques et la résurrection pour que le sens que Jésus donne à sa mort puisse être vraiment compris par ses disciples. Le récit de Luc ne cessera de dire que le ressuscité s'efforce d'ouvrir l'intelligence des disciples afin qu'ils comprennent ce qui concerne la passion du Christ dans les Écritures.
Au cœur sans intelligence, lent à croire à tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures, ce qui le concernait.
Il n'est pas naturel à l'être humain de percevoir la souffrance comme étant un chemin qui mène à l'amour. Pour entrer dans la plénitude de l'amour, l'amour agapé, comme dit l'Évangile, qui est une bonté toute gratuite, il faut en effet croire à la force du pardon qui permet à l'amour de survivre aux infidélités et aux trahisons. Il n'y a pas de fidélité aussi bien dans l'amitié que dans l'amour conjugal ou dans l'amour familial, sans passage par le pardon. Jésus, en effet, a continué à aimer Pierre qui le reniait, à aimer Judas qui le trahissait, à aimer les autres disciples qui l'abandonnaient. Il a maintenu son cœur en état d'amour, malgré la haine de ceux qui voulaient le faire mourir. Et cela eut comme prix la souffrance de la mort sur la croix. Le sens de cette mort de Jésus sur la croix ne pouvait pas être porté par les disciples avant la résurrection. D'ailleurs, regardons l'Évangile, même à l'approche de la Passion, les disciples ne parviennent pas à se mettre à l'unisson de leur maître. Écoutons la demande des fils de Zébédée alors que Jésus annonce sa prochaine arrestation.
« Maître, accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire et être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Les ayant appelés près de lui, Jésus leur dit « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations dominent sur elles en maîtres et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi pour parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. »
Et on rencontre une même incompréhension lors du dernier repas, alors que Jésus vient précisément de confier qu'un des leurs va le trahir.
Il s'élève entre eux une contestation. Lequel d'entre eux pouvait être tenu pour le plus grand ? Jésus leur dit, « Les rois des nations dominent sur eux, et ceux qui exercent le pouvoir sur eux se font appeler bienfaiteurs. Mais pour vous, il ne va pas ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous se comporte comme le plus jeune, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert.
Pour changer cette incompréhension, il faudra donc toute la pédagogie de l'Esprit du Ressuscité, toute la pédagogie du Paraclet, qui établira les disciples sur la longueur d'onde de leur maître et qui leur donnera la force spirituelle de porter eux aussi la croix.
Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quelle expérience pouvons-nous faire aujourd'hui du Paraclet?
Dans les communautés chrétiennes que Paul a fondées, il aura besoin de toute l'aide de l'Esprit pour faire comprendre pourquoi le crucifié est le Messie qui était attendu par le peuple de Dieu.
Alors que les Juifs demandent des signes et que les Grecs sont en quête de sagesse, nous proclamons, nous, un Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Aussi bien, frères, considérez votre appel. Il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de gens bien-nés. Mais ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort. Ce qui, dans le monde, est sans naissance et ce que l'on méprise, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qui n'est pas pour réduire à rien ce qui est. Frères, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige de la parole ou de la sagesse. Non, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, je me suis présenté à vous, faible, craintif et tout tremblant. Ma parole et mon message n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. C'était une démonstration d'esprit et de puissance, pour que votre foi reposât non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.
Oui, tout au long de l'histoire, les disciples du crucifié vont avoir besoin de l'esprit interprète du Paraclet pour continuer à croire en la force de l'amour humble et pauvre qui seul peut sauver le monde de toutes les fausses puissances. C'est le Paraclet qui nous fait comprendre comment un crucifié sauve le monde. La tentation des disciples et de l'Église sera au contraire de chercher la puissance et la richesse, de vouloir convaincre de l'Évangile par ce qu'on peut appeler les procédés du monde, la crainte de Dieu, le prestige de ses représentants. Posons-nous la question, nos assemblées chrétiennes sont-elles vraiment des assemblées de petits et de pauvres, ouvertes aux marginaux? Nos lieux d'Église sont-ils des témoins d'une église servante et pauvre? Écoutons un évêque brésilien, Dom Fragoso, qui écrivait dans Évangile et Révolution sociale.
Si nous avons foi dans le Christ et dans son Évangile, nous devons organiser notre vie sociale, politique et économique en accord avec cette foi dans la dignité foncière du petit, du faible, du pauvre. Le chrétien doit s'engager dans la lutte pour la libération des frères du Christ, pour leur libération de la faim, de la maladie, de la misère, de l'oppression. Religieux, religieuses, aurons-nous le courage d'aller jusqu'à nous libérer de la propriété de nos collèges, pour être simplement au service d'une pastorale de l'éducation? Notre liturgie, notre messe pourraient même constituer une prédication de l'athéisme si nous demeurions indifférents aux exigences de la justice sociale.
Il appartient à chaque disciple d'être le porte-parole du Paraclet pour que la communauté tout entière soit fidèle à son maître. Alors, y a-t-il encore de la place dans nos assemblées liturgiques pour que cette quête, cette recherche de la vérité soit le fruit de tous? Y a-t-il encore place pour des Paraclets qui soient autres que le président, le prêtre, comme cela d'ailleurs avait cours à la synagogue et aussi dans la primitive église. Écoutons ce passage des Actes des Apôtres.
Le jour du sabbat, Paul et Barnabé entrèrent à la synagogue et s'assirent. Après la lecture de la Torah et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Frères, si vous avez quelques paroles d'interprétation à dire au peuple, parlez. » Paul alors se leva, fit signe de la main et dit « Hommes d'Israël, et vous qui craignez Dieu, écoutez. »
On le voit, Paul et Barnabé se sont fait ainsi les paraclets pour les membres de la synagogue.
Quand il viendra, lui, l'inspirateur de la vérité, il vous fera cheminer dans la plénitude de la vérité.
Alors, quelle est cette plénitude de la vérité? Sinon, celle de connaître, dans la profondeur la plus intime de notre être, ce Père qui est Dieu et qui n'est qu'amour et qui s'est révélé dans l'amour d'amour du Fils bien-aimé, le crucifié. C'est l'Esprit qui fait saisir aux disciples que sur la croix, Jésus l'a aimé et s'est livré pour lui. Si tel est l'amour du Fils, tel est aussi l'amour du Père. Dès lors, l'unique vérité qui doit me faire vivre est cette certitude d'être aimé de Dieu, cette certitude qui me permettra de passer sans crainte de ce monde au Père et qui m'est donnée par l'Esprit qui fait crier « Abba ».
Ô Père, merci de m'aimer, et ce n'est pas moi qui vous crierai que je suis indigne. En tout cas, m'aimez, moi, tel que je suis, voilà ce qui est digne de vous, digne de l'amour essentiel, digne de l'amour essentiellement gratuit. Ô, cette pensée m'enchante! Me voilà bien à l'abri des scrupules, de la fausse humilité, décourageante, de la tristesse spirituelle. On pense d'ordinaire trop à soi et pas assez à lui. Il y a de malheureux théologiens qui ont peur de faire Dieu trop bon. Il est bon, mais il n'est pas faible, disent-ils. Faible par amour, comme mon Père en est plus grand et plus beau. La croix me donne raison. C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du Catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
514-254-8750. Vous pouvez aussi vous abonner. Téléphonez-nous, nous vous donnons les tarifs des abonnements pour le feuillet ou pour les cassettes.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture. So